Bonjour à tous. Dans la direction de la louange, on avait dit Dieu, notre paix. Ça veut dire que Dieu veut que la paix règne vraiment aussi. Dieu qui pourvoit, et Harry a bien dit que ce n'est pas seulement matériel, mais dans bien des choses aussi. Ça veut dire que dans notre vie spirituelle aussi, nous avons besoin de l'aide de Dieu, qu'il nous soutienne à tout moment. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour ce troisième trimestre qui vient de commencer avec le sous-thème « Vivre dans l'imitation de Dieu ». Avec comme verset de base, donc il est dit ici dans Matthieu 6, 12 « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Dimanche dernier, Annie avait fait une bonne introduction sur ce sous-thème amplement suffisant pour nous mettre dans le bain et de nous laisser imprégner vraiment de la grâce de Dieu au travers de ce sous-thème. Parce que, il faut le dire honnêtement, hein, l'imitation de Dieu, ce n'est pas quelque chose de facile. Le Dieu saint, trois fois saint, et nous qui sommes nés que des humains, et pourtant nous sommes appelés à le vivre ainsi quand même. Et combien c'était clair avec le développement qu'il nous a fait. Et je me suis dit, en associant le sous-thème vivre dans l'imitation de Dieu, et avec le verset de base, on peut dire que le verset de base lui-même donne déjà un des exemples de cette imitation de Dieu avec le mot « pardon » qui ressort et qui est mis en valeur. Et ça, nous ne pouvons pas l'esquiver, mais vraiment, il faut le reconnaître. Dieu nous invite à vivre le pardon. Et Annie avait bien insisté là-dessus, d'où les trois points qu'il nous a partagés. C'est d'abord, nous allons tous rendre compte devant Dieu, juste et saint. Le pardon est l'initiative de Dieu. Et enfin, il a dit, et là, c'est vraiment que il y a de la pauvreté dans le non-pardon. Donc, c'est des mises en garde pour nous tous là. Et nous avons été vraiment interpellés. Si le pardon est l'initiative de Dieu, donc le sous-thème nous apprend, nous aide à l'appliquer dans notre vie, à le vivre tous les jours. Et que ce ne soit pas seulement des lettres mortes, mais qui vivent des paroles vivantes en nous. Remarquons, mais dans les quatre sous-thèmes, deux mots reviennent toujours, c'est Dieu et vivre. Je n'en dis pas plus sur Dieu, mais plutôt sur vivre. Vivre à la gloire de Dieu, vivre dans la dépendance de Dieu, vivre dans l'imitation de Dieu, et pour le dernier trimestre, nous aurons encore vivre dans la mission de Dieu. Ça veut dire tout est en accord, notre vie, avec le Dieu trois fois saint. On peut dire quel grand défi pour nous alors au travers de ces sous-thèmes et qui va s'étaler tout au long de l'année. Vivre, le dictionnaire donne comme définition être en vie. Ce qui est le contraire de mourir, ça veut dire cesser de vivre, il n'y a plus de respiration, rien du tout. Vivre veut dire aussi qu'il y a la vie, un état dynamique, tandis que mourir, ben, un état statique et plus même, je dirais, il n'y a plus de vie. Mais c'est seulement à ceux qui ont la vie qui peuvent donner gloire à Dieu, qui peuvent dépendre de Dieu et qui peuvent imiter Dieu et accomplir la mission de Dieu. C'est ce que nous rappelle d'ailleurs le psalmiste, et je le trouve formidable quand il dit ceci, « Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence, mais nous, nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. » Louer l'Éternel, psaume 115, versets 27 et 28. Lorsqu'il dit « nous », ça commence par lui-même et à ceux qui sont adressés, le psaume, ça veut dire à ceux qui respirent, à ceux qui sont en vie, parce que les morts, ils ne peuvent plus célébrer l'Éternel. Ce ne sont pas ceux qui descendent dans le lieu de silence qui peuvent dire encore « glorifier Dieu, honorer Dieu ». Mais ce sont les vivants. Et nous aussi, nous bénéficions encore de cette interpellation du psalmiste, puisque nous sommes encore en vie. Et c'est une grâce que Dieu nous accorde aujourd'hui encore. Et je me suis dit, tant que Dieu nous prête vie, nous ne cessons de le bénir. Mais revenons maintenant au sous-thème, vivre dans l'imitation de Dieu. En quoi devons-nous imiter Dieu? C'est une très grande question, mais nous allons y revenir. Cette cinquième requête dans le Notre Père, on peut dire qu'elle est vraiment le cœur même de Notre Père. Et remarquez, mais c'est la seule requête que Jésus va développer, commenter juste dans les versets qui suivent, avec une mise en garde. Cela montre toute son importance vraiment. Je me suis dit, c'est bien plus qu'une simple prière dans la liturgie, mais il a toute son importance, la prière, le Notre Père. Elle nous montre un modèle de prière complet qui élève Dieu et qui glorifie Dieu au début et à la fin. Et au milieu, il se trouve que cette prière nous permet de nous adresser à Dieu aussi, de lui faire connaître notre besoin quotidien avec la nourriture. Le pardon aussi, c'est un besoin quotidien aussi, le pardon, ainsi que la protection contre tous les mâles, contre les malins. Ça, c'est notre besoin quotidien aussi. Cette cinquième requête me fait penser à un enfant à qui le curé a dit de réciter le Notre Père lors d'un catéchisme. Et comme il y a des mots, des fois un peu difficiles, étranges pour lui, il dit ceci: pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont tant fessés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont tant fessés. En tout cas, le rime est là. À ceux qui nous ont offensés, à ceux qui nous ont tant fessés, lui aussi, il est prêt à pardonner à ceux qui lui ont donné du fessé. Alors, en quoi devons-nous imiter Dieu? Eh bien, tout simplement, selon le verset de base, c'est de vivre le pardon, l'appliquer dans notre vie. Alors, ce message, je vais l'intituler « Le pardon, option ou obligation ?» Donc, ça rime bien, option ou obligation. Avec obligation, ça veut dire une exigence même, qu'on n'a pas le choix, mais on doit l'appliquer. Dans notre vie, nous avons sûrement rencontré des gens qui sont en friction, et qui refusent de se saluer ou bien même de se pardonner aussi, ou bien même que nous l'avons vécu. Eh bien, le sous-thème de ce trimestre nous interpelle et ne peut pas nous laisser indifférents, mais nous pousse à nous examiner nous-mêmes, surtout en tant qu'enfants de Dieu. Remarquez, mais le pardon dans la vie chrétienne a deux sources. Il vient de Dieu, mais il vient de nous aussi. Moi aussi, je peux accorder le pardon. Donc, il y a ces deux sources de pardon. Et je vais diviser ce message en trois points qui dit ceci: le pardon est divin, promis par Dieu. Le pardon est humain, ordonné par Dieu. Et il y a des exemples à vivre selon Dieu. Donc, nous allons voir le premier point, le pardon, un acte divin. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans cette cinquième requête, Christ nous apprend quelque chose de capital vraiment concernant le pardon. Le chrétien récite facilement cette prière, mais est-ce que nous réalisons vraiment sa portée? Est-ce que nous réalisons ce que nous disons? Parce que ce qui sort de notre bouche devrait être normalement en accord avec notre cœur. Pardonne-nous nos offenses, donc on demande à Dieu. Comme nous aussi nous pardonnons ceux qui nous ont offensés, ça veut dire que c'est comme si on a déjà fait l'acte aussi auparavant de pardonner ceux qui nous ont offensés et on demande à Dieu après. En citant cette prière, c'est comme si nous disons à Dieu: j'ai fait le premier pas à mon offenseur, à toi de me pardonner maintenant, Seigneur. Et je me suis dit, si je prononce cette prière, que je pardonne, est-ce que c'est le même niveau, la même valeur par rapport au pardon de Dieu, le pardon que Dieu m'accorde? Donc cela nous amène à connaître d'abord la valeur du pardon de Dieu à notre endroit. Et c'est à partir de là que nous pouvons jauger le niveau de notre pardon vis-à-vis de notre prochain. Est-ce que c'est seulement sur les lèvres seulement, ou bien du fond du cœur aussi, et qu'on est prêt vraiment à pardonner à notre prochain? Le pardon de Dieu, mes chers frères et sœurs, est phénoménal, incommensurable, qu'on ne peut mesurer. Littéralement, ce verset dit, et Annie l'a dit d'ailleurs dimanche dernier, « Remets-nous nos dettes comme nous aussi nous remettons à nos débiteurs. » Remets-nous nos dettes comme nous aussi nous remettons à nos débiteurs. Dès qu'on entend le mot dette, ça nous fait froid dans le dos. C'est triste en voyant, par exemple, des personnes qui sont criblées de dettes et qui témoignent dans les journaux télévisés, comme en France, par exemple, quand on voit la télé, qui sont dans une situation triste en étant déjà retraités, ils sont arnaqués, ils sont vraiment toutes sortes de dettes qu'ils n'arrivent plus à s'en sortir. Eh bien, nos dettes devant Dieu aussi sont énormes. Et elles font barrière entre Dieu et l'homme. Elles bloquent toute communion, elles bloquent toute relation avec Dieu. Et voilà un mur qui s'érige entre Dieu et nous. Souvenons-nous du séjour dans le jardin d'Éden qui a laissé une trace, une tache indélébile, le péché est entré dans le cœur de l'homme. Et c'est triste la description d'Ésaïe à ce propos quand ils disent: Nous sommes tous devenus comme un objet impur et tous nos actes de justice sont comme un vêtement pollué. Tous nos actes de justice sont comme un vêtement pollué. Nous sommes tous flétris comme une feuille morte. Et nos fautes nous emportent comme le vent. Ésaïe 64, 5. Ça veut dire qu'on a essayé tant bien que mal avec nos actes de justice de faire un peu ceci, cela, mais rien n'est fait. Il est toujours là le mal, il est toujours là le péché. Et Paul l'annonce dans le Nouveau Testament, la conséquence de cet acte de désobéissance, ben c'est tout simplement le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Alors, que peut-on espérer encore face à tout cela? Y a-t-il encore une espérance, une solution face au péché? C'est ça la grande question qu'on peut se poser. Eh oui, il y a une bonne nouvelle. Le juste juge a pourvu une solution pour notre problème de péché. Et bien avant que cette solution soit effective, écoutez ce que dit le psalmiste. « Si tu gardais le souvenir des iniquités, éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Qui pourrait se tenir debout encore sur ses deux pieds? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. » Voilà, c'est quelque chose de merveilleux. Même avant l'action à la croix, le pardon se trouve déjà auprès de l'Éternel. Comme on a cité tout à l'heure avec la bénédiction et la malédiction dans Deutéronome. N'est-ce pas merveilleux alors? Une bonne nouvelle pour nous. Comme un baume dans le cœur meurtri, le Dieu juste, le Dieu saint, il est miséricordieux. David lui-même aussi l'avait expérimenté dans sa vie, d'où son inspiration. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Psaume 103, verset 3. Pas partiellement ou quelques-uns seulement, mais toutes, du passé, du présent et du futur. Tous nos péchés seront pardonnés par l'Éternel. Et s'il y en a qui doutent encore, Ésaïe appuie, « Venez et plaidant, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Ésaïe 1, 18. Quel contraste, mes amis, avec ces couleurs cramoisi et pourpre. Eh bien, c'est sûr que c'est difficile à effacer la tache, les couleurs. Mais Dieu va faire en sorte que tout le passé soit effacé, toute trace de péché balayée. Quelles que soient nos actions, tout sera accompli par le Fils de Dieu sur la croix. Là, nous voyons le niveau, la valeur du pardon divin, celui de Dieu. Nous ne le méritons pas, mais Dieu nous accorde son pardon du moment où nous sommes prêts à nous séparer de nos péchés et que l'acte a été déjà accompli sur la croix par Jésus-Christ. Rappelons-nous de l'immensité de nos dettes avec la parabole qu'Annie nous a développée dimanche dernier. Mais à cause de son amour pour nous, il a envoyé son Fils pour venir nous racheter. Donc il y a une certitude qu'avec le pardon divin, il y a une complète libération du péché. Voilà, bien-aimés, en Christ, le processus du pardon divin. Maintenant, qu'en est-il de notre pardon alors vis-à-vis de notre prochain? Cela nous amène au deuxième point, le pardon, un acte humain. En étant fait à l'image de Dieu, il se trouve que quelques traits de Dieu se trouvent en nous aussi. Si petits soient-ils, comme l'amour par exemple, on a tant cité aussi tous les attributs de Dieu, mais il y a quelques-uns qui sont en nous aussi. Même face à la sainteté de Dieu, nous sommes appelés aussi à l'être. Et cela a déjà commencé avec Israël, lorsque Moïse donnait les lois sur la pureté. Écoutez ce qu'il dit de la part de Dieu. « Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez. Vous serez saints, car je suis saint. Vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu s'adresse au peuple d'Israël au travers de Moïse. « Vous serez saints, car je suis saint. » Mais imaginons un petit peu tout ce qu'avait fait le peuple d'Israël, surtout dans les périples dans le désert, avec les murmures, toute la désobéissance. Mais voilà l'appel de Dieu. Et Pierre a repris cette prière, cette recommandation dans son épître, 1 Pierre 5, 15. Et c'est pareil avec le pardon. Nous recevons son pardon et à notre tour aussi de pardonner. Eh bien, c'est aussi simple que cela. Si Christ avait appuyé sur l'amour fraternel selon Jean 13, 34 et 15, 12, ensuite repris par Paul aussi dans 1 Thessaloniciens 4, 9, par Pierre, 1 Pierre 1, 12, toujours sur l'amour fraternel, et enfin par Jean dans son épître, quatre fois, on ne pourrait pas vivre l'amour fraternel s'il n'y a pas le pardon, et surtout le pardon mutuel. C'est capital de vivre dans cet état d'esprit, c'est-à-dire être en paix avec son entourage. Et c'est ce que Paul, d'ailleurs, a recommandé dans Romains. Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Romains 12, 18. Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous. C'est autre chose si c'est l'autre partie qui refuse, qui ne veut pas. Mais si ça dépend de moi, si ça dépend de nous, si nous sommes la clé pour dénouer la situation, faisons les pas, chers amis. Et nous serons bénis, surtout nous donnons gloire à Dieu, comme c'est le premier sous-thème de cette année. Nous ne sommes pas vaincus, loin de là, mais nous sommes victorieux. Et nous vivons, nous imitons notre Seigneur. Jésus nous a parlé sur l'amour fraternel, mais il n'a pas oublié de parler du pardon. Plus haut, j'ai dit que la cinquième requête est la seule que Jésus a commentée, et aucune ambiguïté sur ce qu'il dit. Écoutez ce qu'il dit. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. C'est la parole de Dieu qui dit ça, ce n'est pas moi. Matthieu 6, 14, 15. Avouons-le, mais c'est un avertissement redoutable que nous ne devons pas prendre à la légère. En fait, en refusant de pardonner, nous nions notre état de pécheur, que nous aussi, nous avons besoin du pardon divin. Moi aussi, tous les jours, j'ai besoin du pardon de Dieu, renouvelé chaque jour. Nous devons nous souvenir que le pardon des péchés n'est pas la conséquence directe de notre pardon aux autres, comme si nous disions à Dieu, donnons, Seigneur. Mais il est fondé sur la grâce de Dieu, comme le souligne Paul dans Éphésiens 4, 32, et qui dit ceci. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Faites-vous grâce réciproquement comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Éphésiens 4, 32. Mais avec les autres versions, ils disent de pardonner réciproquement. Mais ici, il dit faites-vous grâce. Ça veut dire il y a aussi l'idée de pardon aussi dans ce mot, de faire grâce réciproquement. Et j'ai même découvert qu'un verset dans Psaume appuie cette grâce de Dieu. Mais il dit d'une autre manière. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Psaume 25, 11. C'est à cause de ton nom. Ça veut dire que Dieu est jaloux de son nom aussi. Et ce n'est pas à cause de nos mérites ou à cause de nos efforts qu'il pardonne, mais à cause de son nom. Voilà le pardon de l'Éternel. Alors, deux situations peuvent se présenter devant nous, et chose remarquable, Jésus les a soulevés afin que nous ne tombions pas dans le piège de l'ennemi qui est de vivre dans la rancune et dans la médiocrité. Par exemple, nous voyons sur le tableau là, Marc 11, 25 et 26, « Allez vers celui qui vous a offensé. » Voilà ce que dit la parole. « Et lorsque vous êtes debout, faisons votre prière. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. » afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Il reprend ce qui était dit dans Matthieu. Et dans Matthieu 5, 23 à 24, allez vers celui qui était offensé par vous. La première, c'est vous avez été offensé. Qui vous a offensé? Celui qui était offensé par vous. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, donc tu l'as sûrement blessé, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère et puis viens présenter ton offrande. Donc s'il y a un lien qui est brisé, soit l'un ou l'autre la cause, il ne faut pas laisser la situation s'envenimer. Il faut régler le plus vite possible. Je suis blessé ou j'ai blessé quelqu'un, réglons toujours la situation. Dans Marc, si on veut vivre en paix, il faut pardonner. C'est un ordre que je libère mon cœur de ce fardeau. Le pardon, il y a d'ailleurs un livre qui s'intitule « Le pardon, une puissance qui libère », et c'est vrai. Peu importe ce que pense l'autre, je veux lui pardonner. Et dans Matthieu, il y a aussi une part d'engagement, il faut se réconcilier. Ça veut dire établir une bonne entente avec la personne. Aussi un impératif. Peut-être ma démarche fera un déclic sur l'autre et qu'il ne s'y attendait pas. mais au moins nous allons nous retrouver en paix. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Remarquez, mais les deux nécessitent notre engagement. Donc, ne pas attendre l'ordre à ce qu'ils fassent, qu'ils réagissent, mais de faire la démarche, et les deux démarches aboutissent à une paix profonde. Donc, si on veut se réconcilier, tout commence dans notre tête et dans notre cœur, et ainsi tout est fin prêt pour accomplir le pardon. Maintenant, passons aux exemples maintenant. L'exemple négatif a été largement expliqué par Annie avec le serviteur impitoyable dans Matthieu 18, 23 à 35. Quelle triste situation avec ce serviteur, avec ses dettes énormes qui ont été épongées. Alors, attention, comme il l'a bien souligné dimanche dernier, au non-pardon. Oui, mais des fois nous disons, je pardonne, mais je n'oublie pas. Parce que c'est tellement difficile ce qu'il m'a fait, alors je pardonne, mais je n'oublie pas. Ce qui veut dire qu'il y a toujours un grief dans notre cœur, et cela peut gangréner notre vie. Cela va pourrir notre vie, et ainsi nous aurons une vie terne, une vie morose, une vie qui n'est pas épanouie, parce que le grief plane toujours en nous, dans notre cœur. C'est terrible ce que faisait ce serviteur. À peine il avait été gracié par son maître pour ses dettes énormes, qu'il n'a pas daigné remettre la dette que lui devait son ami. Une petite dette, rien du tout par rapport à ce qu'il devait payer à son maître. Et une fois le maître mis au courant de cette situation, il le livre au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé jusqu'au dernier centime. L'énorme fardeau, les dettes qui lui avaient été remises, lui retombent de nouveau. Et cette fois-ci, plus de secours, payé jusqu'à la fin. Mais voyons deux exemples positifs sur l'application du pardon. Et comme tout à l'heure aussi, eh bien, c'est divin et humain aussi. Nous verrons qu'il y a vraiment une similitude dans ces pardons, et c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Le pardon divin. Qui d'autre avons-nous en tête, si ce n'est notre Seigneur Jésus-Christ? Lorsqu'il était cloué sur la croix, au lieu de crier « Que la foudre tombe sur ceux qui me crucifient », il dit plutôt « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Luc 23, 34. Quelle prière, chers amis! Ce précieux joyeux est conservé par Luc seul dans les quatre évangiles. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est incroyable ce qui se passe à ce moment crucial où Jésus demande à Dieu de pardonner à ceux qui le mettent à mort, c'est-à-dire les chefs juifs, les politiciens, les soldats romains et tout le peuple qui avait crié aussi « Crucifie-le, crucifie-le !» alors qu'auparavant, ils étaient glorifiés aux ânes, aux fils de Dieu. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, Dieu avait répondu à sa prière en ouvrant le chemin du salut, même aux assassins de Jésus. Selon Matthieu 27, 54, même le centenier et ceux qui étaient avec lui, sûrement les soldats, ont reconnu que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Et il se trouve même que par la suite, lorsque l'Évangile s'est répandu, que des prêtres se sont convertis même, ça montre vraiment l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur des gens, selon Actes 6, 7. Voilà un cœur miséricordieux qui implore le pardon de Dieu pour ses bourreaux, comme un avocat qui plaide la cause des gens qu'il défend devant le juge. Et ici, c'est devant le juste juge, et sa demande lui a été accordée. Jésus veut qu'eux aussi, même ceux qui l'ont crucifié, malgré leur acte, puissent être sauvés, puisque c'est pour l'humanité qu'il s'est donné sur la croix. N'est-ce pas ce qu'affirme Paul dans le plan de Dieu, quand il dit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité, c'est Jésus. Que tous soient sauvés, 1 Timothée 2, 1 à 4. Ça veut dire que Dieu agrée notre prière. Dieu agrée notre intercession. Et ce n'est jamais du temps perdu, mais selon son temps et sa volonté, il répondra. Cette prière de Jésus sur la croix, la première sur les sept, comme les sept paroles sur la croix, a déclenché le processus de pardon pour l'humanité. Bien sûr que ceux qui acceptent le sacrifice de Jésus sur la croix. Et qui dit sacrifice, dit sang versé, sang coulé sur la croix. C'est ce que nous affirme d'ailleurs l'Épître aux Hébreux qui dit « Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang et sans effusion de sang il n'y a pas de pardon. Hébreux 9, 22. Mais attention, ce n'est pas n'importe quel sang. Il est bien dit ici, dans Hébreux 9, 12, avec Jésus, avec son propre sang, il est entré dans le lieu très saint. Avec son propre sang. Donc ce n'est plus avec le sang d'un bouc ou le sang d'un agneau, mais avec son propre sang, sans tache. Nous voyons là la portée du pardon divin, surtout qu'il a dit à la fin, sur la croix, tout est accompli. Le plan de Dieu n'a pas failli en chemin, mais il est allé à son terme pour le salut de l'humanité. Voyons maintenant le dernier point, le pardon humain. Alors là, c'est vraiment une imitation parfaite, une copie collée de TV+. C'est la prière d'Étienne, une courte prière, mais qui va laisser des traces. Qu'à cela ne tienne, sa mort proche, il élève encore cette formidable prière. S'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché !» Et après ces paroles, il s'endormit. Acte 7-6. Incroyable! Il a pu faire ça, Étienne, alors que vraiment, situation difficile, au lieu de demander la malédiction, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché !» Même à l'approche de la mort, au lieu de s'apitoyer sur son cas, Étienne prononce des paroles semblables à Jésus. Dans la même circonstance, face à ses bourreaux, il n'était pas du tout paniqué face à la mort. Il n'a pas demandé à ce que Dieu intervienne pour changer le cours des événements. Non, il n'a pas fait cela, mais au contraire, il a prié pour eux. Il ne les a pas maudits, au contraire, il les a bénis à travers sa prière. Et le résultat est étonnant, peu de temps après, ce sera la conversion de celui qui tenait ses vêtements, témoin de sa mort, et qui deviendra par la suite le grand prédicateur, l'apôtre Paul. N'est-ce pas merveilleux l'œuvre de Dieu? Même l'ennemi n'avait pas réussi à entraîner Étienne dans son sillage de la haine, de la rancune. Il a vaincu la haine par l'amour au travers d'une prière d'intercession. Et quel bel exemple pour nous! Étienne était prêt à souffrir jusqu'à demander pardon pour ses assassins. Nous pourrions nous demander aussi, comment a-t-il pu avoir une telle force? Eh bien, c'est le Jéhovah Jireh qui pourvoit. C'est tout simplement l'œuvre du Saint-Esprit qui lui est venue en aide. C'est comme si Étienne n'a retenu le message dans les sermons sur la montagne. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Exactement ce qu'a fait Étienne. Quatre impératifs que Jésus a demandé à ses disciples de faire, et Étienne n'a pu les faire ici dans les moments les plus crucieux de sa vie. On peut bien aimer, on peut bien bénir, faire du bien et prier quand tout va bien, quand cela nous arrange. Mais quand tout va mal, est-ce qu'on arrive à le faire encore? Ça, c'est autre chose. Pour conclure, je dirais tout simplement que pour que nous puissions vivre dans l'imitation de Dieu, laissons le Saint-Esprit faire son œuvre en nous, nous façonner, nous transformer afin que notre vie donne gloire à Dieu. Sommes-nous disposés à faire la prière de Jésus, d'Étienne dans notre vie, à ce qui nous cause du tort? Humainement parlant, c'est difficile, mais nous pouvons toujours demander l'aide de Dieu par son Esprit Saint afin de nous équiper à faire face à toutes les attaques qui se dressent devant nous. Le sous-thème de ce troisième trimestre est un grand défi pour nous. Pas seulement à propos du pardon, mais dans bien des domaines de notre vie. À partir du moment où nous portons le titre « Enfant de Dieu », nous sommes, je dirais même, nous devons imiter notre Seigneur. Celui qui a assisté à la mort d'Étienne, une fois né de nouveau, a dit, parce qu'il était transformé, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » 1 Corinthiens 11, 1. Voilà ce que Paul l'a dit. « Soyez mes imitateurs. » Si les anciens disent aussi maintenant ici, soyez mes imitateurs, sommes-nous à sacrifier nos cheveux comme les cheveux d'Annie? Si Paul dit de telles paroles, est-ce de l'arrogance? Je ne pense pas. Comme les Corinthiens ignorent presque toute la vie du ministère de Jésus, Paul le leur fait connaître au travers de sa personne, parce qu'ils n'ont pas vu Jésus-Christ le Corinthien, mais c'est au travers de sa personne qu'ils le voient. Donc, d'où son témoignage, vraiment. Cela dit, il est difficile pour Paul de leur dire d'imiter Jésus-Christ, mais de l'imiter parce que lui-même, il imite le Seigneur Jésus-Christ. Si Christ nous appelle à aimer, à prier, à bénir, à pardonner ceux qui nous persécutent, combien plus dans une relation fraternelle entre enfants de Dieu ? Ceci dit, appliquons le pardon mutuel dans nos relations, parce que nous ne voulons pas donner aucune parcelle de terrain à l'ennemi dans notre cœur. Pour terminer, je vais dire ces paroles de Père, de Paul, qu'il n'a pas oublié de rappeler aux Éphésiens, aux Colossiens, quand ils disent « Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Éphésiens 4, 12. Et enfin, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Colossiens 3, 13. Que le Seigneur le bénisse. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous nous sentons si petits devant ta grandeur, devant ta magnificence, devant ta sainteté. Mais là, Seigneur, tu nous apprends aussi à vivre selon ta vie, à t'imiter, Seigneur. Eh bien, nous ne pouvons pas le faire, mais c'est uniquement avec ton aide, avec l'aide du Saint-Esprit. Ainsi, viens nous aider, Seigneur, et conduis-nous chaque jour dans notre vie de tous les jours. Tant que tu nous prêtes vie, Seigneur, que notre vie soit en accord avec ta volonté. Nous avons besoin constamment de toi, Seigneur. Ainsi, dirige-nous, conduis-nous. Et si nous sommes dans une situation délicate en ce moment, pour chacun d'entre nous, de vivre le moment de pardon, eh bien, conduis-nous et fortifie-nous. Équipe-nous, Seigneur, afin que nous puissions faire ce qui est de ta volonté. Merci, Seigneur Jésus. Amen.